Radio Django, la rose des vents.
18h20, dans ce grand direct, c'est la rubrique La Rose des Vents. Et cette semaine, nous accueillons pour la troisième fois le collectif Jean Dutoit. On le rappelle, nous l'avions reçu à deux reprises pour parler du rapport publié en novembre 2017 et portant sur les droits et la mobilité des personnes migrantes noires africaines en Suisse et en Europe. En avril, on avait parlé de migration et de l'histoire du collectif, qui, on le rappelle, s'était formé en 2015 dans le but de trouver un toit pour ses membres africains. Et en début mai, nous avons abordé la question des discriminations et des répressions subies par les membres. Ce soir, par la voix de Mathias et Fodé, auquel je donne les bienvenus, bonsoir. Le collectif Jean Dutoit est venu nous présenter la dernière partie de son rapport intitulé. Je donne la bienvenue aussi à Linda. Bonsoir.
Bonsoir Claudia.
Donc, quel est le cœur de cette partie ?
Eh bien, comme tu l'as dit, c'est un volet qui s'intitule « Recommandations » et qui est plutôt adressé aux autorités. Et puis ce soir, on a Fodé et Mathias pour nous en parler. Comment est-ce que vous êtes arrivés à la conclusion qu'il fallait des recommandations à la fin de ces trois parties?
Mais tout d'abord, merci de nous inviter encore pour parler de ce rapport aujourd'hui. En fait, après avoir mis à jour tous les problèmes rencontrés par les personnes migrantes qui vivent et qui font la vie du collectif Jean Dutoit, on s'est avancé pour essayer de trouver des solutions qui conviendraient en fait à leurs désirs, à leurs droits, aux droits fondamentaux qui ne sont pas respectés en Suisse par rapport à la vie des personnes migrantes. Donc ça paraissait juste naturel, après avoir fait une telle analyse, d'essayer de proposer des solutions et de ne pas rester simplement dans une critique extérieure, en fait, mais de s'impliquer véritablement.
Et justement, vous faites allusion aux droits fondamentaux, lesquels vous semblent particulièrement mis en péril dans ce cadre-là?
C'est juste comme on n'est pas trop loin avec la... On n'est pas trop loin avec la population. Comme si dit loi fondamentale, c'est ça, si on n'est pas respect, on n'est pas loi de, comme tout le monde, on n'est pas une personne, comme on est loin, on est en bas. Et juste ça, on voulait parler avec la politique, avec la population de Suisse, comme ça, et comprendre la situation des personnes qui habitent d'eau. Si dit qu'ils habitent d'eau, c'est dit comme ça, si tu n'es pas une maison, tu n'es pas un travail, tu n'es pas une personne 100%, tu es comme un petit peu loin de la vie des gens qui habitent normal.
Je comprends. Et vous parlez aussi de passerelles institutionnelles à mettre en place entre les différents régimes.
Oui, ben c'est vrai qu'à partir du constat où les droits et la dignité des personnes migrantes en Suisse n'est pas respecté, ou comme l'a dit Fodé, les gens qui soient africains, qu'ils aient la peau noire, pour des raisons telles que celles-ci, en raison de leur nationalité, de leurs papiers, etc., soient déconsidérés et que leur vie soit évaluée comme étant moins importante que celle de personnes suisses, il paraît essentiel de mettre en place des possibilités pour ces personnes d'avoir accès à leurs droits. Et pour ça, ben, il faut bien partir de la société existante et des lois qui existent aujourd'hui, dont les lois sur l'asile, les lois sur la nationalité, etc. Mais en essayant d'aménager des choses qui vont aller dans le sens d'un plus grand respect des droits, d'un respect juste basique de la dignité et des droits humains de ces personnes, dont le droit à la libre circulation, dont le fait que ces personnes ne doivent pas être exilées sous la contrainte, forcées de partir, ni détenues contre leur volonté alors qu'elles n'ont commis aucun crime. Donc ça, c'est des choses qui nous tiennent à cœur.
Fodé, dans le rapport Jean Dutoit, un thème central, c'est celui de la maison, ouais. De l'habitat. Ouais. Vous en avez connu plusieurs successivement avec le collectif. Quelles leçons vous en avez tirées?
Je pense que c'est important pour que tout le monde, comme là-bas, il y a beaucoup de gens qui habitaient avant, 3 années avant, qui habitaient d'eau, dormaient seul. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de mentalité, psychologisme. Mais avant de connaître tout le monde comme une maison, une famille, il y a beaucoup de ça qui a arrêté. il y a beaucoup de gens qui n'ont pas psychologiques problèmes, il y a beaucoup de problèmes. Tu as quelqu'un qui te compte, tu as quelqu'un qui te dit ton problème. Et pour moi, même aussi, au commencement, on a un petit peu de problème, mais après deux années comme ça, on devient comme une famille. Mm-hmm. On discute ensemble. Il n'y a pas un pays, il y a comme tous les pays d'Afrique, comme l'Ouest-Afrique, comme ça. On devient un pays, on devient une famille, on discute, on fait quelque chose, manger comme ça. Et maintenant, on est comme famille. S'il passe quelque chose, quelqu'un, c'est moi qui ai passé. Parce que tout, on est à la même situation, tout, on est à même problème. Et donc, maintenant, c'est un problème, on bosse, et c'est ça.
Donc le fait d'avoir un toit permet de créer une communauté et puis d'échanger sur les problèmes qu'on peut rencontrer.
Ouais.
Qu'est-ce que vous défendez comme projet social pour ce qui est de l'habitat? Je crois que vous avez des dispositions assez claires.
Du coup, l'expérience du collectif, comme l'a dit Faudet, c'est que les gens, en fait, gagnent à vivre ensemble et à prendre des décisions ensemble. Mais aussi à avoir l'autonomie à la fois individuelle et collective qu'on peut trouver là, ce qui n'est pas le cas évidemment dans certains centres d'accueil à l'aide d'urgence et dans ce genre d'endroits où les gens sont tout le temps placés sous la hiérarchie de personnes suisses, voire de personnes blanches qui font sentir aussi peut-être, ou la différence de couleur en tout cas est sentie. Ça, c'est une des choses qui nous font proposer des habitats coopératifs plutôt que des habitats où les gens manquent d'autonomie, se trouvent dans l'impossibilité de travailler, se trouvent aussi à l'écart de la société, de la population suisse, par exemple avec des centres qui sont à l'extérieur des villes parfois, voire en rase campagne ou dans la montagne. Nous, on pense qu'au contraire, c'est en mettant ces lieux de vie parmi la population que des échanges peuvent se faire, que des rencontres peuvent se faire, les gens apprennent la langue, etc.
Par rapport au système de l'aide d'urgence, FODE, vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Est-ce que c'est vraiment une aide? L'aide d'urgence.
Oui, c'est ça. Pour moi, ce n'est pas bon. Tu as dit quelqu'un, je te paie 200 balles, je te paie 300 balles, tu ne fais rien, tu ne travailles pas, tu ne bouges pas ton maison. Ce n'est pas une chose que ça va avancer la vie des personnes. C'est comme ça, tu as dit, à trace d'une personne qui ne fait rien. Juste à cette manger, reste. Et aussi, también, c'est bon. Quelqu'un, s'il y a un papier de travail, c'est plus avancer son vie, c'est plus avancer son futur. C'est important, c'est ça, que plus que donner 200 balles ou 300 balles, que rester à la maison, il ne fait rien. C'est pas. Si comprendre comme Allemagne. Avant 1994, il y a les mêmes choses que maintenant en Suisse. Mm-hmm. Il y a des gens qui restent à la maison, ils ne font rien. Maintenant, c'est censé, si quelqu'un fait asile, il a le droit de donner travail, il a le droit de donner papier, il fait quelque chose d'important dans son vie. Parce que si tu as gagné 200 balles, ok, ça va, j'ai gagné 200 balles, je reste à ma maison, au moins, je ne sors pas. C'est comme je ne suis pas une personne de moi-même. Parce que je discute à personne, je n'ai pas ami, je n'ai pas rien. Je pense que plus important de donner quelque chose qui travaille elle-même gagner son vie.
Ça rejoint d'ailleurs le thème de une des recommandations qui est la déprécarisation des personnes. Qu'est-ce que vous préconisez? Quelque chose à ajouter, Mathias?
C'est surtout qu'on a constaté que l'aide d'urgence en ce moment est une politique de dissuasion, en fait, qui dissuade les gens de rester en Suisse. Donc, on leur donne des conditions de vie qui sont, en gros, invivables. Donc, partez de chez nous, ça vaudra mieux pour vous. Nous, on proposerait plutôt d'aller dans un autre sens. En autorisant les gens à travailler, qui se trouvent à l'aide d'urgence. Aussi, on pense que l'aide d'urgence, ça ne peut pas être seulement un lieu, une assignation. Ça devrait être quelque chose qui donne des possibilités aux gens, qui ouvre des possibles. Donc, par exemple, pour se déplacer, on sait que ce n'est pas facile dans un pays étranger. Donc, si les gens n'ont pas de possibilité d'aller dans les moyens de transport et si on ne subventionne pas un peu leur possibilité de se déplacer dans la Suisse, c'est très compliqué. Et que finalement, les centres de l'aide d'urgence pourraient devenir plutôt des centres de relais, de passage, où se font des échanges aussi bien de connaissances que de capacités, etc. Parce que toutes les personnes migrantes, en tout cas au collectif Jean du Toit, ne veulent qu'une chose, c'est participer à la vie sociale, économique et politique de la Suisse. Et au lieu de ça, elles se trouvent séparées dans une forme de ségrégation qui ne dit pas son nom.
Dans le dernier volet du rapport, d'ailleurs, vous avez abordé la question du racisme en Suisse. Sur ce terrain, Faudé, qu'est-ce qu'il y a à faire pour espérer un changement de mentalité ?
Je pense que c'est important de politique en général qui arrêter de parler trop mal, bien que vive d'eau. Parce que si arrêter comme ça, peut-être là, beaucoup de monde qui entendit ça, il n'y a pas invité avec Africains qui habitent d'eau, il n'y a pas invité ça, juste écouter politiciens, juste écouter journalistes, c'est ça, il y a beaucoup de racisme. Mais si arrêter comme ça, ça c'est cool, parce que si racisme c'est arrêter beaucoup, il y a beaucoup de gens, peut-être il va marier avec femme ou il va marier avec un homme, parce qu'après il y a beaucoup de travail. Mais si arrête pas comme ça, la politique agressive aux polices paraît tout le temps mal. Il y a beaucoup de gens qui respectent beaucoup la politique, la police, la journaliste. Mm-hmm. Et c'est ça, il y a encore beaucoup de racisme. Il faut, comme racisme, il vient un petit peu en bas. Parce que maintenant, si vous voyez Lausanne, il y a beaucoup de West-Africains, on est un petit peu loin de la vie des gens. Parce qu'on est une personne qui n'est pas trop valeur. Tu comprends? Si dit trop valet, c'est comme ça, il y a beaucoup de personnes, on n'est pas confiants entre nous. Si il parle de racisme, il y a beaucoup de racisme. Il y a des gens qui sont racistes, il n'y a pas trop confiance.
Donc vous pensez que c'est aux politiques et aux médias de donner une image plus positive.
Plus positive qu'il y a des vérités aussi.
Et au niveau légal, à l'heure actuelle, on a l'article 261 bis hein, du Code pénal qui réprime la discrimination raciale, mais on sait que ce n'est pas un outil très efficace. Et en plus, le fardeau de la preuve repose sur la victime. Donc vous, au collectif Jean du Toit, vous proposez un renversement de ce fardeau, n'est-ce pas ?
Oui, c'est quelque chose qui a déjà été proposé par bien d'autres personnes et organismes et associations. L'idée, c'est simplement, comme ce qui fait d'ailleurs dans le cas du harcèlement sexuel envers des femmes, c'est-à-dire que dans le cas où une personne se sent attaquée sur un motif raciste, elle peut simplement porter plainte contre la personne qui a commis cette action, et c'est à la personne qui aurait commis cette action de prouver qu'elle ne l'a pas commise. Et donc c'est bien un renversement du fardeau de la preuve, c'est-à-dire c'est la personne accusée ici d'acte raciste qui doit montrer qu'elle ne l'a pas fait. Et c'est vrai que c'est important dans ce genre de situation parce qu'on a affaire à une minorité politique importante avec les personnes racisées en Suisse en général. Et c'est très difficile pour elles, d'une part, de porter plainte parce qu'elles en sont dissuadées tout au long du processus judiciaire, et d'autre part, d'avoir simplement aussi la confiance et l'assurance nécessaire, le soutien du système pour que l'équilibre qui n'est pas du tout existant puisse être atteint à un moment donné.
Avec le problème de la contre-plainte souvent déposée par la police contre.
Alors ça arrive souvent dans des cas d'arrestation où quelqu'un se plaindra que la police a été violente à son égard, a fait un usage disproportionné de la force, que des policiers en face déposent une plainte contre cette personne pour dire qu'elle a été violente et qu'elle a agressé la police. Évidemment, ça fait peu avancer les choses dans la mesure surtout où c'est dissuasif, c'est-à-dire où ça va pousser la personne à retirer sa plainte. C'est une forme de menace qui, dans certains cas, peut certainement nuire à la justice.
Selon le rapport, on assiste à une criminalisation des personnes migrantes, en particulier noires africaines. Il y a d'un côté le deal de rue à Lausanne, qui est une thématique qui affole un peu tous les milieux en ce moment. Et le traitement n'est pas toujours optimal de cette thématique, mais il y a aussi la détention administrative. Quel est votre point de vue sur ces deux aspects, deal de rue et détention administrative ?
Bon, c'est vrai que cette question du deal de rue, elle est particulièrement croustillante sous la dent de certains journalistes, c'est sûr. Il y a des articles qui sortent tous les mois sur le sujet. Et en même temps, il y a un mécontentement d'une partie de la population qui voilà, se sent dépossédée de ses rues. Donc il y a des problèmes qui sont multiples, il y a des problèmes liés à la santé publique, il y a des problèmes liés à l'occupation de l'espace public par les gens, par des hommes, par des femmes, par des gens de différentes nationalités et couleurs. C'est des problèmes complexes et on regrette surtout qu'ils soient traités avec si peu de considération pour cette complexité. Il y a vraiment un travail à faire de fond autour de toute cette question, parce que s'il y a du deal, c'est aussi parce qu'il y a des consommateurs. Les consommateurs, une enquête l'a récemment montré, se retrouvent à 2/3 dans les milieux festifs, notamment pour la cocaïne et la marijuana. Donc c'est vraiment des questions de société et on ne peut pas simplement évacuer les responsabilités de tous les acteurs en jeu, en fait. Et ça, c'est, on aimerait vraiment que les hommes politiques, femmes politiques et la population puissent l'entendre et aller de l'avant.
Quelques mots sur la détention administrative, où ça rejoint l'analyse que vous faites du deal de rue, du traitement médiatique en tout cas.
Ben, la détention administrative, étonnamment, on en parle très très peu dans les médias. On fait comme si c'était finalement normal de tenir des gens en prison pour les renvoyer dans un autre pays, alors qu'il n'y a rien de normal là-dedans. Je pense que détenir des gens contre leur volonté, alors qu'il n'y a pas de problème pénal, dans des endroits qui sont très souvent des prisons, parce que les centres de détention administrative se trouvent souvent dans des prisons avec des conditions parfois pires que dans les prisons, ce qui est un comble, et ce qui est totalement intolérable et contraire aux droits de l'homme, encore une fois. Donc là, il y a des problèmes desquels on pourrait souhaiter que des personnes qui en ont les moyens et le temps et des juristes puissent se saisir de certains sujets et amener les responsables politiques de ces questions aussi à rendre des comptes à la société.
Enfin, l'un des points qui choque le collectif Jean Dutoit, on l'a brièvement abordé tout à l'heure, c'est l'impunité constatée jusqu'ici lors d'actes de violence ou d'abus de pouvoir par des policiers. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, sur l'impunité?
Ça, on demandait beaucoup de temps, ça fait 3 années comme ça. On est comme... Si je dis, c'est pas maintenant, c'est pas, mais maintenant, c'est un petit peu plus. Que... Il y a, avant, je te dis la vérité, avant, il y a un police qui frappait gens, qu'on les fait contrôler. Maintenant, il y a un petit peu plus. Il y a un petit peu de discrimination de police. On voulait demander politique sur la population. Si une police qui est partie travailler en dos, il y a quelque chose par signature qui donne ça, je contrôle 3 fois, je contrôle 5 fois, ainsi, on connaît la vérité.
Un reçu pour chaque contrôle.
Ou quelqu'un regarde la police qui fait, c'est parti du travail qui fait. Ça, c'est important que ça arrête un petit peu. Puis si continue comme ça tout le temps, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, il y a beaucoup de gens qui vont mourir. C'est pas trop net comme ça, quelqu'un juste fait contrôle 10 fois un jour. Par partir accepter quelque chose, tu as contrôlé 10 fois une insulte, tu n'as donné rien. Ou tu as insulté parce que c'est noir, ou tu as insulté. Si on regarde en Suisse, en Lausanne, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout, c'est immigrant, il n'y a pas papier, c'est africain. Peut-être nous, on est petit. Il y a beaucoup d'immigrants que nous, mais ils ne contrôlent pas comme ça. Et pourquoi ils contrôlent nous comme on n'est pas une personne, ou on est fait un petit peu loin de la population?
C'est la question du profilage racial qui est très ciblé.
Oui, et si vous voyez también, nous, il y a beaucoup de gens de grandir en Europe. C'est pas si en Suisse, mais grandir en Espagne, en Portugal. Même chose qu'un Portugais qui vient chercher son vie. Même chose qu'un Italien qui vient chercher son vie. Donc, pourquoi nous, on ne va pas choquer le racisme de la police, et autre côté, ils ne choquent pas. C'est trop important qu'il faut... On a regardé beaucoup de choses et censé un petit peu, gens qui trouvent travail, gens qui font son vie naturelle, gens qui font quelque chose d'important, arrêtez de faire des choses de bêtises. Parce que si vous avez des drogues, faire des dealers de dos, pourquoi tu n'as pas une maison, tu n'as pas un travail? Si quelqu'un n'a pas un travail, il n'a pas une maison, c'est quoi? Si moi je voulais acheter un kebab, je n'ai pas l'argent, je fais quoi? Ça sert quelque chose pour acheter un kebab.
C'est ça.
Merci.
Merci beaucoup à Faudé pour ce témoignage, à Mathias aussi du collectif Jean Dutoit. On a parlé des recommandations du rapport. Donc, c'était le dernier volet de la trilogie d'émissions, justement consacré à ce rapport de Jean Dutoit, qui était paru en 2017. Un rapport que vous pouvez télécharger librement sur le site internet à l'adresse collectifjeandutoit.wordpress.com et dont vous pouvez aussi réécouter tous les entretiens sur notre site internet django.fm. Et on y met également tous les liens pour les téléchargements et pour aller plus loin dans ce sujet. Et merci à Daniel et à toi, Linda, pour la préparation de cette série d'émissions.